autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiau.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Par leur plumage, leur chant et leur grâce, les oiseaux nous inspirent. Présents dans le ciel, mais aussi dans notre imaginaire, ils volent bien haut dans nos mythes et nos croyances. Chaque espèce, ou presque, fait l'objet d'une représentation symbolique différente d'une région de notre planète à l'autre. En Scandinavie, le corbeau est par exemple vu comme un oiseau des dieux. Au Japon, il symbolise l'amour familial, quand en France, il est signe de mauvais présages. Hirondelles, vautours, cigognes, les oiseaux ont bien investi notre culture, interface entre nous et notre monde. Ils sont aussi une source inépuisable d'inspiration pour nos deux invités ornithologues, Guillain Le Saffre, qui les côtoie avec assiduité depuis près de 45 ans et qui publie le livre « Légendes d'oiseaux » et Philippe Dubois, qui co-signe une petite philosophie des oiseaux, 22 leçons de sérénité que ces maîtres à penser peuvent nous transmettre à leur façon. Et s'ils nous permettaient de voir en miroir notre humanité autour de la question « Que nous enseignent les oiseaux ?» Bienvenue.
Mon petit oiseau a pris ça à voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça à voler.
Les trois oiseaux sont les premiers Pokémon de la licence à apparaître comme légendaires. Pour la peine, on pourrait croire qu'ils ont un rôle moins important, mais ce n'est pas le cas. C'est même le contraire, puisqu'ils ont pour fonction de réguler le climat, et tout déséquilibre au sein du trio pourrait provoquer une catastrophe naturelle.
L'air s'obscurcit tout à coup, comme s'il était couvert d'un nuage épais. Mais si je fus étonné de cette obscurité, je le fus bien davantage quand je m'aperçus que ce qui la causoit étoit un oiseau d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaire qui s'avança de mon côté en volant. Je me souvins d'un oiseau appelé Roc.
Oh, qu'est-ce que c'est, ma jambe, hein?
Corps de rapace et tête de famille deuse, les harpies ne laissent sur leur passage que malheur et désespoir. Monstres aux serres acérées et à l'odeur infâme, on les rendait responsables de toutes les disparitions. Même les dieux n'étaient pas à l'abri de leurs méfaits. Elles furent créées pour enlever les enfants et les âmes des morts.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Charlie.
Bonjour.
Les oiseaux peuvent, on l'entend, nous effrayer, mais aussi nous émerveiller. En tout cas, ils nous laissent rarement indifférents. Qu'est-ce qui en fait un thème aussi fécond qui nourrit les croyances, mais aussi la littérature, le cinéma et même des jeux vidéo comme Pokémon, on l'entendait il y a quelques instants. Guillain Le Saffre.
Je pense que Philippe sera d'accord pour dire avec moi que ce qui nous fascine chez les oiseaux, c'est d'abord la capacité à voler. C'est quelque chose dont nous sommes bien incapables, à moins d'être équipés tout à fait sérieusement. Et puis c'est peut-être aussi le fait qu'ils sont très souvent inaccessibles, qu'on ne les comprend pas toujours. Donc c'est cette part d'imaginaire justement dont vous parliez tout à l'heure qui nous fascine probablement aussi.
Et les oiseaux font l'objet de nombreuses légendes sur tous les continents en fait.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir, comme vous l'avez rappelé en introduction, que ces légendes varient selon les endroits du globe où l'on se trouve et que la perception des oiseaux n'est pas toujours la même, loin de là.
On parlait du corbeau, par exemple.
Alors le corbeau, pour un Scandinave, c'est un oiseau intelligent, ce qu'il est d'ailleurs véritablement. Il s'agit là du grand corbeau. Et Odin est souvent représenté avec ses deux corbeaux qui représentent la pensée et la mémoire. Et ce sont des oiseaux tout à fait bénéfiques. Alors que pour nous, probablement parce que dans les civilisations occidentales, il était associé au gibet, au charnier, c'est un oiseau maléfique, inquiétant, ce dont Hitchcock ne s'est pas privé hein, dans son film en 63, Les oiseaux qui ont durablement marqué l'imaginaire.
Et comment naissent en fait ces légendes? On voit que certaines se basent sur une réalité observée. On peut citer le cas de la cigogne hein, qui incarne les naissances, qui apporte selon la légende les bébés chez leurs parents. Mais c'est un oiseau aussi qui est réputé pour prendre soin de ses petits après la naissance.
Ce qui m'a intéressé dans Légendes d'oiseaux, c'est d'essayer de trouver quel était le fondement de ces légendes. Ça n'est pas toujours possible d'ailleurs, mais quelquefois on peut y arriver. Et je propose l'explication suivante pour ce rôle de représentant de la piété filiale qu'est la cigogne. L'explication que je trouve, c'est que les cigognos restent très longtemps au nid et ont pendant quelques semaines l'aspect des adultes, sans en avoir les parties colorées, c'est-à-dire le bec ou les pattes. Et il est possible que par le passé, on ait pris ces grands jeunes pour en réalité de vieux oiseaux dont continuaient à s'occuper les adultes. C'est peut-être là l'explication de cette symbolisation de la piété filiale, qui remonte à l'Antiquité d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une loi grecque qui s'appelle Pelargonia, la loi Pelargonia, qui vient de Pelargos, le nom de la cigogne en grec, et qui commandait aux enfants la piété filiale, justement. On devait s'occuper des parents. Il n'y avait pas d'EHPAD à l'époque.
Il y a d'autres mythes aussi anciens ou très anciens liés aux oiseaux ?
Alors, la plupart des mythes remontent, comme on dit, facilement à la nuit des temps. Il est probable que ces mythes existaient bien avant même l'invention de l'écriture, mais depuis qu'on a des représentations picturales, des représentations gravées ou des représentations écrites, on peut dater un petit peu plus facilement, à commencer par les représentations égyptiennes, par exemple, que tout le monde connaît.
Et alors, on les voit parfois bons, parfois mauvais. Le rouge-gorge, par exemple, nous porte chance en Irlande, quand l'hirondelle y incarne l'oiseau du diable.
Oui, c'est quelque chose qui est surprenant parce que pour nous, en France, l'hirondelle, c'est l'oiseau du bonheur, c'est l'oiseau du retour du printemps, même si une seule hirondelle ne fait pas celui-ci. Mais c'est vrai que dans certains pays, c'est un oiseau maléfique. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de trouver l'explication. En revanche, pour ce qui est du rouge-gorge, vous parliez de l'Irlande, c'est quand même plus facile parce que, n'oublions pas qu'en français, il s'appelle le rouge-gorge familier, ce qui signifie qu'il est quand même extrêmement proche de nous, qu'il nous fait confiance, un petit peu par intérêt, parce que lorsque le jardinier retourne son petit lopin de terre, le rouge-gorge vient chercher des vers. Mais c'est probablement cette confiance et cette proximité qui a fait de cet oiseau, de ce tout petit oiseau, un ami, si vous voulez, donc qui est vu tout à fait positivement.
Philippe Dubois, observer les oiseaux, c'est aussi apprendre sur nous-mêmes ?
Ah oui, évidemment. Je dis toujours que, en fait, les oiseaux sont des espèces de petits maîtres à penser dont on ferait bien de plus souvent s'inspirer. Parce qu'en les observant, en les regardant, on devient plus respectueux de nos propres rythmes, dans le sens où, contrairement aux humains, les oiseaux en particulier, mais les animaux en général, sont dans le carpe diem, c'est-à-dire ils sont dans l'instant présent. Ils jouissent pleinement de cet instant présent. Ils ne sont pas à se projeter dans un futur plus ou moins immédiat qui lui-même peut générer des angoisses, des questionnements. Il est à l'instant présent. Pour reprendre l'image de Guillain, quand un rouge-gorge trouve un ver de terre, il est heureux. Il est heureux de trouver son ver de terre. Quand un merle noir, mâle, proclame le printemps en chantant, il est heureux d'être... Il est fier, il est content d'être un merle.
Comblé par son existence.
Voilà, la poule qui prend un bain de soleil, enfin un bain de poussière qui se frotte les plumes sur la terre, elle est totalement heureuse. Donc tout ça, ça nous inspire, ça devrait plus nous inspirer et nous aider à retrouver l'être naturel qui est en nous et qui fait de plus en plus défaut dans ce monde où tout est immédiat, tout est concurrence, tout est voilà. Donc oui, ce sont vraiment, je le redis, des petits maîtres philosophiques pour nous.
Et vous le dites, observer leur vie sociale, leur façon de séduire ou même d'être parent nous donne en fait des leçons. On peut en tirer des leçons.
Oui, parce que les... Comment dirais-je la nature, quand on l'observe, en fait, elle ne nous dit rien, c'est cette nature. Mais elle nous apprend tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir la décrypter, la regarder. Et donc, le quotidien d'un oiseau devrait être pour nous une source vraiment permanente de mode de vie. Donc, voilà, parce que tout est... Si vous voulez, moi, ce que j'aime bien chez oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas de normes spécifiques. On trouve de tout chez les oiseaux. On trouve des machistes, on trouve des homosexuels, on trouve de l'altérité. Et voilà, donc pas de normes. Et en plus, ça c'est un truc qui est extraordinaire, c'est que les oiseaux ne nous jugent pas. Ils ne nous jugent pas. Et donc, là aussi, on aurait beaucoup à apprendre.
Et voilà. Les oiseaux machistes, qui sont-ils ?
Ah bah par exemple, les oiseaux machistes, vous avez certains oiseaux où le mâle se comporte évidemment comme un machiste, il a plusieurs femelles, il n'est là que pour la reproduction, c'est-à-dire en fait il va laisser après les oiseaux, les femelles s'occuper des jeunes, couver d'abord, puis s'occuper des jeunes, et ça a un prix de chair, et lui va continuer sa vie. Voilà, il y a des espèces qui sont comme ça, mais on trouve, parce que comme je vous ai dit, on trouve de tout et on trouve exactement le contraire. On trouve quelques espèces qui sont rares, où ce sont les femelles qui tiennent la culotte, si vous me permettez l'expression, et qui...
C'est le cas des tourterelles notamment ?
Non, pas les tourterelles. Les tourterelles, c'est autre chose, c'est l'altérité. Non, là, c'est des femelles qui sont complètement dans le... Voilà, qui font la même chose. C'est-à-dire, c'est les mâles qui s'occupent de tout. Et même, c'est les femelles qui ont le plumage nuptial. Voilà. On trouve ça chez des espèces de... ce qu'on appelle les petits échassiers, les limicoles. Et où c'est une espèce de, on va appeler ça, de gynisme exacerbé. Quoi.
Et vous évoquez dans votre livre le changement de plumage du canard dont on peut s'inspirer.
Alors voilà, moi c'est quelque chose, oui, là aussi c'est une petite leçon de sagesse, je pense. Chez les canards, chez certains canards, les mâles qui sont eux, alors, souvent de vrais machistes, c'est eux, alors, ils ont un superbe plumage, ils arborent un très beau plumage en début de saison de reproduction, et puis... celle-ci terminée, vers la fin du printemps, début de l'été, ils vont ce qu'on appelle muer, c'est-à-dire qu'ils vont totalement renouveler leurs plumes, parce que les plumes s'usent, et pendant cette phase qui s'appelle l'éclipse, ils vont donc prendre un plumage qui s'appelle plumage d'éclipse, qui, de brillamment coloré, va devenir extrêmement terne, marron, gris, etc. Il y a même une phase où ils ne volent plus du tout. Donc, les mâles qui faisaient les malins deviennent une proie facile.
Cloués au sol.
Cloués au sol. Et donc, il n'y a plus qu'à une chose, c'est se cacher, être le moins visible. Et ce que ça inspire, c'est que nous aussi, on devrait parfois s'accorder des temps de mue, si vous voulez. C'est-à-dire, d'abord, ralentir notre mode de vie toujours extrêmement rapide et prendre le temps de ces transitions. On ne sait plus s'accorder des temps de mue, des temps de transition où on pourrait prendre un peu de recul par rapport à soi-même.
Et vous le dites, par exemple, savoir faire peau neuve après une rupture amoureuse, professionnelle.
C'est ça. C'est en fait, on est tellement pris dans ce fil excitant au sens propre de la vie qu'on ne sait plus s'accorder ces temps qui nous permettraient justement de... ces temps d'éclipse qui nous permettrait de repartir peut-être plus fort et mieux aguerri.
Guillain Le Saffre, vous, ce qui vous intéresse aussi, c'est l'idée qu'à travers ces légendes-là, ces légendes d'oiseaux, les hommes ont cherché à donner des explications à ce qu'ils voyaient autour d'eux.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'était cette enquête, cette recherche, quelquefois inaboutie, mais assez souvent j'ai pu trouver quelques explications. On en parlait tout à l'heure pour la cigogne. Un autre exemple que je pourrais citer, c'est celui des puffins qui sont supposés venir s'ébrouer sur l'île de Lecé, en mer Noire, pour, comment dirais-je, honorer le temple d'Achille. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'oiseaux qui viennent s'ébrouer, qui viennent humidifier des gouttelettes qui s'échappent de leur plumage ce temple, le dallage de ce temple, qui nettoient la poussière avec leurs ailes? Eh bien, en réalité, on peut expliquer ça avec le comportement des puffins, comme le puffin yelkouan, par exemple, ou le puffin des Anglais, qui sont des oiseaux qui, lorsqu'ils ressortent de la vague après avoir plongé, ont pour habitude de s'ébrouer rapidement, instinctivement. Et on peut peut-être trouver dans cette façon de faire l'origine de cette légende selon laquelle les puffins viendraient nettoyer le temple d'Achille.
Alors les oiseaux ont une place aussi très importante dans certains rites, notamment funéraires. Je vous propose un petit détour au Népal avec cet extrait d'un reportage sur France 5 sur des funérailles dites célestes.
La procession parcourt la montagne pendant une heure et demie jusqu'à une corniche sacrée, où les rites se déroulent depuis plus de 1000 ans. Ils ont rendez-vous avec les plus grands charognards de l'Himalaya. Depuis des milliers d'années, les bouddhistes comptent sur les vautours fauves et les gypaètes barbus pour les aider à se débarrasser de leurs morts. Ces grands oiseaux font disparaître les cadavres en quelques heures. Les bouddhistes considèrent cette pratique comme un acte sacré, une offrande qui permet de nourrir d'autres créatures.
Bien, le safre, les vautours sont souvent associés à ces rites et oui. À la mort.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui évidemment, pour nous occidentaux, est un peu choquant, mais qui paraît tout à fait normal dans cette partie du monde, et qui est assez beau si on réfléchit bien. C'est-à-dire qu'il y a la double volonté d'éviter la corruption de la chair, donc de garder cette espèce de pureté, et puis le fait de compter sur le rôle psychopompe, comme on dit, de ces vautours, c'est-à-dire les guides des âmes, puisqu'une fois qu'ils ont achevé leur repas un petit peu sinistre, ils s'envolent dans les airs, et donc dans cette région du monde, on a pensé que l'âme des défunts était transportée vers le ciel par l'intermédiaire, par le truchement de ces oiseaux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que dans d'autres parties du monde, on retrouve cette idée d'oiseaux psychopompes avec, par exemple, les cygnes, qui, pour les habitants des îles écossaises, il y a fort longtemps, étaient considérés aussi comme ceux qui allaient au printemps, lorsqu'ils repartaient vers le nord, après avoir passé l'hiver un petit peu plus au sud. Donc, lorsqu'ils repartaient vers le nord, ils étaient censés emporter les âmes de ceux qui étaient morts durant l'année. Et là aussi, on tombe sur ce fameux rôle psychopompe. C'est assez joli comme image.
L'idée d'élever l'âme, en fait.
Exactement.
Vous évoquez aussi dans le livre l'alouette qui crée un lien entre terre et ciel.
Oui, alors ça, c'est une histoire que l'on racontait autrefois en Bretagne. Et c'est ma région d'adoption, donc j'y suis tout à fait sensible. Oui, l'alouette était ce lien entre la terre et le ciel. C'est elle qui guidait les âmes des défunts. Là aussi, rôle psychopompe, finalement. Qui guidait les âmes des défunts vers le ciel et qui... arriver là-haut, les laisser en quelque sorte en place au paradis, si vous voulez. Et puis elle a été détrônée par un certain Saint-Pierre. Et depuis, elle continue à faire des allers-retours entre la terre et le ciel. Et je dois dire qu'à chaque fois que je vois en Bretagne, et Philippe, tu pourras y penser maintenant, à chaque fois qu'on voit une alouette, et il y en a de moins en moins, je pense à ce rôle qu'elle pouvait avoir de lien entre la terre et le ciel, et ça me fait rêver.
Et une vraie dimension spirituelle, en fait.
C'est une dimension spirituelle qu'il ne faut pas négliger, s'agissant des oiseaux.
Philippe Dubois, vous évoquez le vautour, vous aussi, pour nous faire réfléchir sur la question du pouvoir et de la domination.
Oui, parce que les vautours donc, sont nécrophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent, par exemple, d'un animal mort en montagne. Et alors, il y a tout un cérémonial très particulier, puisqu'en fait, lorsque les vautours ont repéré un oiseau mort, c'est d'abord les dominants, c'est-à-dire les individus souvent les plus âgés, qui vont arriver et donc qui vont faire place nette autour d'eux. Donc, pas question pour ceux qui sont dans le deuxième cercle, voir les jeunes oiseaux de manger tout de suite. Et donc, ils n'ont plus qu'à attendre que les dominants aient mangé. Mais ce qui est amusant, c'est que les dominants... excusez-moi, mais se baffrent littéralement à une vitesse folle, donc ils sont assez rapidement rassasiés, et donc finalement ils laissent leur place plutôt vite au second, puis au troisième, et en fait les autres certes n'ont peut-être pas les plus beaux morceaux, mais ils en ont beaucoup, et donc cette domination, qui fait qu'on pourrait penser que les autres sont d'un rang inférieur et n'auront plus que les restes pour se nourrir, en fait ils ont largement de quoi manger, ils ont surtout tout le temps qu'il faut pour manger. Donc finalement, cette hiérarchie, elle est assez factuelle, elle est d'apparence, parce qu'au final, il n'est pas certain que ceux qui sont les derniers à être venus au festin soient ceux qui aient le moins mangé.
La hiérarchie est-elle le vrai pouvoir ?
Voilà,
c'est la question que vous posez.
Voilà, c'est ça.
Autour de la question que nous enseignent les oiseaux, on reste avec eux sous le vent quand Philippe Catherine reprend Garou et Céline Dion. On se retrouve dans un instant sur RFI.
Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton port au vent de la nuit, ferme les yeux. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent.
Les oiseaux ont beaucoup à nous dire, pourvu qu'on les écoute. Autour de la question que nous enseignent les oiseaux, nous vous proposons aujourd'hui une percée dans un monde ailé, en compagnie de deux voyageurs haut de gamme, les ornithologues Philippe Dubois, ornithologue qui publie La petite philosophie des oiseaux, né aux éditions de La Martinière, et Guillain Le Saffre qui publie, lui, Légende d'oiseaux, aux éditions de La Chaux et Niestlé. Alors vous l'écrivez, Guillain Le Saffre, il n'est pas étonnant que certains oiseaux aient une portée symbolique quand on voit leur plumage, comment ne pas être inspiré par exemple par le paon et ses fameuses ocelles, en fait les taches qui évoquent les yeux.
C'est vrai que quiconque, et je crois qu'on est nombreux dans ce cas, a pu observer un jour un paon en train de faire la roue et est tombé vraiment en admiration devant ce plumage d'une complexité absolument stupéfiante et qui ne peut que fasciner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il espère bien faire, le mâle, quand il se présente à la femelle. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est assez curieux parce que quelquefois, il se tourne pour montrer le dessous de la queue à la femelle et il se met à agiter ses grandes plumes qui finissent par faire un petit peu un bruit de bâton de pluie, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça mélange à la fois la beauté du plumage, l'intérêt du son, et c'est une parade qui est totalement stupéfiante et encore une fois on ne peut qu'être sous le charme, même si on n'est pas une femelle de paon.
Et c'est aussi cette beauté des oiseaux qui a nourri tout cet imaginaire en fait.
Oui, alors ce n'est pas la seule raison pour laquelle les oiseaux peuvent fasciner, parce que enfin je ne veux pas faire le paradoxe hein, mais c'est vrai que certains oiseaux apparemment anodins ont d'autres raisons pour lesquelles ils sont intéressants, pour lesquelles ils sont des ferments d'imaginaire. Mais vous avez parfaitement raison, quand on joue sur la beauté, c'est vrai que c'est quand même plus facile de susciter cet imaginaire. Et le cas du paon est un excellent exemple. Les représentations du paon sont extrêmement nombreuses et évidemment associées à cette multiplicité d'yeux qu'il peut avoir. C'est quand même quelque chose qui est fascinant, parce que c'est un regard multiple, et donc qui ne peut faire que réfléchir à la fois, et en même temps, qui est un peu gênant, parce qu'on a l'impression d'être observé, et on se demande un petit peu ce qui va résulter de cette observation. Donc il y a du pour et du contre dans cette fascination.
Et quand vous parlez d'autres raisons, on est aussi inspiré par certains de leurs comportements, par exemple ?
Oui,
contre la beauté.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à propos du rouge-gorge qui s'approche de nous ou du puffin qui vient s'ébrouer lorsqu'il sort de l'eau. C'est vrai que le comportement peut être générateur d'imaginaire. Si l'on prend par exemple les vautours dont on parlait tout à l'heure, si l'on prend l'aigle, pourquoi pas aussi, qui est capable de prendre des proies assez importantes. Je crois que c'est quelque chose qui fascine parce qu'il y a cette puissance qu'il dégage et par conséquent, ça va là aussi nourrir l'imaginaire. C'est quand même pas par hasard si tous les chefs de guerre à travers l'histoire ont à un moment ou à un autre choisi d'arborer l'aigle comme symbole de puissance. Donc il y a cette espèce de porosité entre la beauté de l'oiseau, beauté formelle mais beauté aussi à travers sa force, et l'utilisation qui en est faite de manière symbolique.
Et certains oiseaux, Philippe Dubois, nous enseignent la beauté avec un grand B, comme thème de philosophie.
Oui, alors en fait, parce que les oiseaux peuvent être des artistes, et vraiment de grands artistes. Prenons l'exemple de l'oiseau à berceau, hein, qui est une espèce originaire de toute la région australienne. Là-bas. L'oiseau à berceau bleu, il a un plumage bleu, comme son nom l'indique, le mâle, et il est fasciné par le bleu, lui. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il va faire un nid en forme de berceau, donc ce qui est quand même assez complexe, ça demande quand même, voilà. Et en plus, il va le décorer, d'une part, d'éléments bleus qu'il va trouver. Alors, ça peut être un petit morceau de bouteille bleue, ça peut être un bouchon de bouteille en plastique bleu. Et donc, tout ce qu'il trouve de bleu...
Une obsession pour le bleu.
Une obsession pour le bleu, pour faire très joli pour sa femelle. En plus, comme c'est un vrai artiste, il va peindre le nid Alors, peindre, vous allez me dire, comme un oiseau peut peindre. Tout simplement, il va ramasser des charbons de bois, parce que c'est une région où les gens utilisent beaucoup de charbons de bois, qu'il va mélanger à sa salive et à des baies violettes pour en faire une espèce de pâte, une pâte bleuâtre, qui va étaler sur les parois du nid pour faire quelque chose qui soit bleu et donc beau et qui aille bien, évidemment, qui se marie bien avec les petits cailloux et les petits morceaux de verre bleu qu'il a mis autour du nid. Et alors, pour faire encore mieux, il va ramasser des petits cailloux bleus, si possible, et il va les placer de telle façon devant le nid, en mettant les gros devant et les petits derrière, de telle sorte qu'il va créer une illusion de perspective pour que la femelle se dise « quelle allée extraordinaire qui m'emmène jusqu'au nid », alors qu'en fait, c'est juste les gros cailloux devant et les petits derrière. Voilà, voilà une espèce qui a quand même une imagination artistique profondante. Oui.
Et cette beauté a de quoi nous rendre jaloux, nous, pauvres humains. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un spectacle qui s'intitule « Contes de la nature » et qui nous raconte un mythe guyanais.
Et soudain, on voit tout là-bas une nuée d'oiseaux. C'est merveilleux. On dirait un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel qui claque dans l'air. Un dragon qui vole. Ils s'éloignent de l'assemblée qui les observe, ébahis. Mais les êtres humains devinrent jaloux. En effet, les êtres humains qui étaient amis des animaux devinrent jaloux et commencèrent à tuer les oiseaux, non plus pour les manger pour le seul besoin, mais pour devenir plus beaux. Et ils prirent leurs plumes pour se faire de belles parures, des colliers, des coiffes, des pendentifs, des plumes pour écrire, des plumes pour le calumet de paix, disent-ils. Et c'est depuis ce jour que les êtres humains et les animaux ne parlent plus le même langage.
Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Moi, je regrette qu'on ne parle plus le même langage. Mais justement, ce qui nous intéresse, Philippe et moi, et tous les ornithologues, c'est d'arriver à comprendre ce langage des oiseaux, que ce soit le langage vocal ou le langage comportemental. Et je crois que cette éducation du regard à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, Philippe, est absolument fondamentale. Et s'il y a une leçon que les oiseaux nous apprennent, c'est probablement la patience, parce que ce n'est pas un monde dans lequel on pénètre facilement. Et si on n'est pas patient, on passe à côté de beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est justement l'apprentissage de la compréhension de quelque chose qui, a priori, nous échappe. Et finalement, enfin, je ne veux pas faire des petites leçons de philosophie, mais c'est ce qui nous permettrait d'être plus ouverts aux autres, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionne l'autre.
Philippe Dubois ?
Qui a tout dit ou presque. Non, moi, je pense qu'effectivement, écouter les oiseaux, c'est pas forcément uniquement écouter leur chant, leur cri, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, les observer, se mettre, je dirais, non pas à leur place, mais à leur niveau. Nous, humains, tout en haut de la chaîne, de la pyramide de la biodiversité, on est persuadé que de toute façon, on peut se suffire à nous-mêmes, et on oublie quand même que les oiseaux peuvent nous apprendre beaucoup de choses, beaucoup de bienveillance, beaucoup de calme, de sérénité et surtout de modestie. Et ce dont nous manquons souvent de façon très, très, très forte. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les oiseaux ne nous jugeant pas, ne se jugent pas non plus. C'est vrai que la vie peut être très dure chez les oiseaux. Il y a des oiseaux prédateurs, il y a des proies. Et en même temps, il y a beaucoup d'équité, de parité, de solidarité. Bref, dans le monde du vivant, dans le monde animal et celui des oiseaux, il y a beaucoup de valeurs dont on fait maintenant abstraction, parce qu'on pense, et c'est probablement lié au siècle d'histoire, qu'on est sur Terre pour nous-mêmes, et que finalement, on peut parfaitement se passer de... Moi, ce qui me fait rire toujours, c'est quand je dis je suis un ornithologue, il y a encore des gens pour me dire « Ah oui, les petits oiseaux, oui, les petits oiseaux, comme si c'était quelque chose... » Non, les petits oiseaux, d'abord, c'est des indicateurs de la santé de notre planète, et puis ce sont des éléments totalement intangibles de notre propre survie.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans notre rapport aux oiseaux, c'est que souvent on les personnifie, on leur prête des caractères humains. Par exemple, la pie est associée à deux épithètes, bavarde et voleuse. Pas très positif d'ailleurs.
Alors bon, c'est vrai qu'elle est bavarde, hein, elle jacasse énormément, mais pour reprendre ce que nous venons de dire, ces jacassements ont une raison d'être. Hein, ce sont des jacassements d'alerte, de communication. Je suis là, où es-tu? Où sont les autres? Où est la nourriture? Ça, c'est ce que nous cherchons à comprendre, nous autres ornithologues. Et puis, voleuse, oui, alors, bon, le vol n'existe pas chez les oiseaux. Enfin, le vol, quand on dérobe. Mais en revanche, oui, c'est vrai qu'elle a une petite attirance pour ce qui attire son œil, justement, et qu'elle tend à emporter dans son nid. Hein. Chacun se souvient de l'épisode de Tintin, je ne sais plus dans quel album de Tintin, avec cette pie voleuse, là, et qui marque effectivement les esprits. Donc, bavard et voleux, c'est un petit peu réducteur. Moi, je peux en parler parce que j'ai élevé une pie lorsque j'étais adolescent et j'ai beaucoup appris à son contact et j'ai pu me rendre compte que c'était des oiseaux particulièrement malins.
C'est-à-dire ?
Bon, il était capable, par exemple, de détourner mon attention pour aller chiper la viande que j'avais pré-coupée pour elle. Elle était capable donc d'aller dans une pièce où elle n'avait pas le droit d'aller. Et le temps que je la rattrape, elle revenait dans la cuisine, elle enlevait le linge sous lequel se trouvait la viande, elle prenait un petit morceau de viande et elle partait par la fenêtre, quoi. Elle avait très bien compris le manège et je m'amusais à lui faire pour voir un petit peu tout ce qu'elle allait faire.
Alors Guillaume Lesaffre, vous avez écrit un autre livre, Les oiseaux ont beaucoup de caractère, dans lequel vous écrivez on peut pas dire les aigles sont cruels, les corbeaux méchants et les pigeons sont idiots. Et à ceux qui tiennent ce genre de propos, vous répondez, savez-vous voler à 80 km/h entre des immeubles?
Ben oui, c'est quelque chose qui m'agace un peu, je le reconnais. On a l'habitude d'appeler les pigeons des rats volants. Ils n'ont pas demandé à être là d'ailleurs, les pauvres. Et puis ils nous donnent un tout petit peu de poésie dans nos grandes villes, même si c'est vrai que c'est au prix de quelques fiantes, c'est vrai, ça peut être désagréable, je n'en disconviens pas, mais prenons la peine de regarder un petit peu des pigeons voler, comme vous venez de le rappeler, à 80 km/h entre les maisons, et admirons cette capacité qu'ils ont à se déplacer ainsi, admirons la capacité qu'ils ont à trouver, à se reproduire dans nos villes, qui sont pourtant des univers pas toujours très très accueillants, et bien eux sont capables de trouver à se nourrir, à se loger, à vivre, à roucouler, et à s'aimer d'amour tendre, comme disait La Fontaine.
Certains oiseaux sont aussi associés à des divinités. On pense par exemple à la déesse grecque de la sagesse, Athéna, qui est représentée sous forme d'oiseau.
Voilà, alors ça c'était le bon temps où la chouette était considérée comme le symbole de la sagesse, effectivement. Malheureusement, au fil des siècles, tout ça est un petit peu parti dans le mauvais sens. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à une photo du père de Philippe, une très belle photo en noir et blanc qui représentait malheureusement une effraie des clochers clouée sur une porte de grange. Une très belle photo en noir et blanc, tristement belle, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on en était arrivé à considérer les rapaces nocturnes non plus comme des êtres intelligents, mais comme des êtres de mauvais augure. Heureusement, on est en train de réviser ce jugement et je dois dire que des films ou des livres comme Harry Potter ont aidé avec cette fameuse chouette blanche, le Harfang des neiges, qui maintenant font apparaître les rapaces nocturnes comme plus sympathiques qu'à une certaine époque.
Il y a aussi des associations symboliques. On associe des oiseaux à des concepts, à des symboles. Par exemple, bien sûr, Philippe Dubois, la blanche colombe associée à la paix.
Oui, bien sûr, c'est... En fait, on a beaucoup choisi les tourterelles et les colombes comme symbole de paix et comme symbole aussi de fidélité. Alors, c'est vrai que, en fait, contrairement à l'idée reçue, un grand nombre d'espèces qui vivent en couple ne sont pas très fidèles. Ça, c'est vraiment une image d'épinal que de penser que les couples sont fidèles. Finalement, il y a beaucoup moins d'espèces fidèles que d'espèces infidèles, ou en tout cas qui changent de partenaire chaque année. En ce qui concerne les tourterelles, je pense que ce qui est effectivement très fort dans les couples qui sont plutôt fidèles, c'est l'altérité. C'est-à-dire qu'en fait, mâles et femelles prennent une part équitable à la construction du nid, à l'élevage des jeunes, etc. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui fait rien et l'autre qui fait
répartition,
tout.
Répartition équitable des tâches ménagères.
Voilà. Et C'est vrai que les tourterelles, comme les pigeons que vient d'évoquer Guillain, c'est des espèces qui sont granivores, hein, donc qui n'ont pas véritablement, qui se nourrissent de graines tout simplement, qui n'ont pas du tout une dimension prédatrice. Donc la tourterelle, souvent au plumage clair, qui vit dans l'altérité, qui se nourrit de graines, quel plus beau symbole que la paix. Donc voilà, c'est vrai que dans le monde des oiseaux, c'est pas les plus chargés émotionnellement d'images plus ou moins négatives.
Mais s'il y a bien une chose que vous avez dû noter tous les deux dans vos observations, c'est celle-ci, les oiseaux sont tous différents, pourquoi en faire des généralités? Et vous proposez, Guillain Le Saffre, de les individualiser, d'admettre qu'ils aient une personnalité propre. Pourquoi cette approche-là?
Eh bien, en fait, c'est venu à la fois d'observations sur le terrain, mais aussi le déclic, je dois le dire, est venu d'un colombophile qui me parlait il y a plusieurs années de cela, de ses pensionnaires, en me disant « Oh, bah celui-là, il est méchant, celui-là, il est malin, celui-là, il est peureux, celui-là, il est vif, celui... » Bon. Et je me suis dit « Mais il a parfaitement raison, de la même manière que les gens que nous connaissons autour de nous ont des caractères tout à fait différents les uns des autres. Eh bien, les oiseaux peuvent avoir aussi du caractère. » Et c'est quelque chose que j'ai pu constater, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, les oiseaux n'ont pas, au sein d'une même espèce, tous le même comportement. Si je prends le cas des mouettes auxquelles je me suis intéressé pendant une dizaine d'années, j'ai pu constater que certaines d'entre elles étaient débrouillardes, d'autres avaient peur, d'autres étaient audacieuses, d'autres étaient peut-être un petit peu sossotes, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles se faisaient avoir par les autres, en quelque sorte. Donc, je me suis dit, mais oui, vraiment, chaque oiseau a sa personnalité, son caractère, sa façon d'être. Et c'est quelque chose qui fait qu'on les regarde différemment et qu'on les respecte peut-être davantage. Parce que pour beaucoup de personnes, un vol d'étourneau, par exemple, ou un vol de pigeon, c'est une espèce de masse informe. Tout se ressemble à l'intérieur de cet ensemble. Mais non, c'est pas le cas. Et chaque élément de cet ensemble a une personnalité propre qui vaut qu'on s'y tâche un petit peu et qu'on le respecte.
Et vous évoquez notamment la voix, les émissions vocales qui aident les ornithologues à identifier les oiseaux mais qui les aident aussi à les différencier. Vous parlez de signature vocale, le chant n'est pas le même.
Oui, alors ça, ce sont des chercheurs hein, comme le professeur Jouventin qui se sont penchés sur la question. On se demandait bien comment les manchots adultes étaient capables de retrouver leurs jeunes dans des colonies de dizaines ou voire de centaines de milliers d'oiseaux. Et on s'est rendu compte, grâce à ces recherches, que chaque poussin a une signature vocale particulière, c'est-à-dire une voix qui lui est propre et qui va guider ses parents jusqu'à lui. Et c'est quand même phénoménal de penser que dans cet ensemble mouvant, bruyant, un adulte de manchot qui revient avec, après plusieurs jours passés en mer, à stocker du poisson pour le redonner à son petit, est capable de faire le départ entre toutes ces signatures vocales différentes pour trouver son petit. Mais finalement, est-ce qu'on fait différemment lorsque l'on entend dans une pièce voisine un groupe d'amis qui est en train de discuter et on entend la voix de quelqu'un ? Tiens, il est là, il est arrivé. On le reconnaît tout de suite. Bah, c'est un petit peu la même chose.
Et vous, vous écrivez que vous reconnaissez aussi le merle qui a élu domicile près de chez vous. Vous savez quand c'est quelqu'un d'autre, un autre oiseau.
Oui, alors c'est même presque un petit peu lancinant, si vous voulez. Quand je jardine en Bretagne, j'entends un ou deux merles à proximité de moi. Et certains ont une signature vocale, par exemple une imitation. Il y en a un qui imite un limicole, par exemple. Hein, il va faire un cri de chevalier cublant à un moment donné de son chant. Et celui-là, je sais que c'est le même. Je sais que c'est lui qui est en train de chanter. Mais quand il chante 200 fois dans la journée, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, on voudrait bien qu'il change de chant.
Alors, les oiseaux nourrissent des mythes et des légendes. Ils inspirent aussi les artistes, comme le musicien Chassol. Tout de suite, Pip Ornithologie, Part 1, c'est sur RFI.
Le siffleur des montagnes. Alors, figure-toi qu'un lundi après-midi, partie sous les bois, j'ai entendu quelque chose de merveilleux. C'est ça.
De la question que nous enseignent les oiseaux. Leur comportement demeure une source d'émerveillement. Et si on prenait encore un peu de temps pour les écouter ? Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, sûrement.
L'hirondelle rustique.
L'hirondelle rustique qu'on entend sur RFI. Ça nous permet donc de parler des hirondelles, Philippe Dubois, avec cette question, les oiseaux et les hirondelles, en particulier, se cachent-elles pour mourir ?
C'est une vaste question. C'est vrai que on est toujours surpris de, quand on se promène et qu'on est naturaliste, de ne jamais rencontrer, de trouver de cadavres d'oiseaux morts naturellement. Quoi. C'est-à-dire que, voilà, comme nous les humains, les oiseaux les plus âgés finissent par mourir de vieillesse. Enfin, il y en a pas beaucoup qui meurent de vieillesse, hélas, parce qu'il y a d'autres accidents de la vie chez les oiseaux. Mais voilà. Et que deviennent ces oiseaux vieillissants qui finissent par mourir ? Visiblement, comme on ne les trouve pas, ils doivent se cacher. Où se cachent-ils ? Ça reste une vraie énigme. C'est-à-dire, je ne connais pas, Guillain, je me tourne vers
on
toi
On n'a pas
aussi.
La réponse.
Je ne connais pas d'études qui aient montré quel était le comportement pré-mortem, si vous voulez, des oiseaux. On ne sait pas. Ça reste donc d'où la fameuse phrase « les oiseaux se cachent pour mourir », c'est probablement vrai.
Ce qui nous permet effectivement de réfléchir à notre rapport à la mort également.
Complètement. Nous, il faut toujours qu'on la mette en scène, notre mort. Les oiseaux sont encore une fois dans la modestie et plus que nous, en tout cas, dans la notion de passage.
Les oiseaux nous permettent aussi de parler de courage. C'est le cas avec l'aigle, notamment.
Oui, alors c'est assez amusant parce que... On l'a évoqué tout à l'heure, l'aigle a souvent été choisi comme symbole pour des pays. On les trouve sur les effigies, les drapeaux, etc.
La royauté.
C'est ça. En fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que l'aigle peut être véritablement couard. Il est paresseux. C'est pas un grand chanteur. Certes, il vole très bien. Et encore... L'aigle est quand même assez paresseux dans le sens où il plane plus qu'il ne vole. Si on voulait vraiment un symbole de rapace, on prend le faucon pèlerin qui fait des piquets de 300 km/h. Lui, il se contente des ascendances. C'est un gros flemmard. C'est pas vraiment un animal d'un caractère intéressant. Si on avait voulu vraiment prendre le symbole de la témérité, du courage, de la curiosité, d'une certaine forme d'intelligence, on aurait dû prendre le rouge-gorge. Je comprends pas pourquoi le rouge-gorge ne figure pas sur les drapeaux. Parce que ça, vraiment, c'est un batailleur, effronté, qui tient son territoire. Bref, exactement ce qui ont été les valeurs de beaucoup de pays qui ont choisi l'aigle. Voilà. Donc c'est ça qui est assez amusant. En fait, en choisissant l'aigle, on a choisi plus le paraître que l'être. Voilà.
Et certains oiseaux aussi nous apprennent le sens de l'orientation.
Oui, alors ça c'est aussi intéressant.
On est un peu perdu pour certains.
Voilà, exactement. Moi, je suis fasciné, et tout en ornithologue l'est, de voir que certaines espèces, par exemple la sterne arctique, qui est un oiseau qui est un des records du vol, puisque il niche l'été dans l'Arctique, donc vers le pôle Nord, et il passe l'hiver dans l'Antarctique. Hein. Donc, vous voyez, grosso modo, il fait à peu près 90 000 km par an, hein, c'est pas mal, et dans la vie d'une sterne d'une vingtaine d'années, on peut dire qu'il a fait deux fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Donc, hein, voilà. Un grand voyageur. Et ce qui est extraordinaire pour la sterne, mais il en va de même pour la plupart des migrateurs, c'est qu'ils sont capables de partir de chez eux et de revenir exactement à l'endroit où ils ont niché, au mètre près, dans une toundra qui est absolument gigantissime. Alors que nous, aujourd'hui, c'est une... Donc, l'orientation, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas notre GPS, si on n'a pas notre téléphone, notre smartphone qui nous indique où on est, si on n'a pas une carte, comme on avait autrefois, une carte entre les mains, des panneaux indicateurs, on est totalement perdu. Moi, j'étais... Alors, il y a encore des humains qui ont ça, notamment en Mongolie. Moi, je suis allé souvent en Mongolie parce que j'aime beaucoup ce pays, où les gens vous baladent dans le désert de Gobi, quand même trois fois la taille de la France, sans carte, sans GPS, parce que de toute façon, ça ne passe pas, sans téléphone satellitaire, sans rien, et sont capables de vous emmener pendant des jours, comme ferait une sterne qui voyage au-dessus des terres ou des océans. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a véritablement perdu.
Et qu'on aurait intérêt à retrouver.
Voilà, tout à fait. Ça peut servir.
Alors, certains comme vous poussent un cri face au silence des oiseaux. C'est le cas de votre collègue, l'ornithologue Grégoire Loïs, au micro de France Inter.
Une catastrophe inattendue presque. C'est-à-dire qu'on avait un déclin qui était continu depuis qu'on le mesure. Donc le début des années 70 en Angleterre et puis la fin des années 80 en France. Et là, ce qu'on constate, c'est un déclin qui s'accélère, qui se précipite sur les 15 dernières années et notamment sur les deux dernières années.
Alors, je vous donne ce chiffre que vous écrivez, Philippe Dubois, dans votre livre. 25% des 10 000 espèces d'oiseaux peuplant la Terre risquent de disparaître avant la fin du 21e siècle. Et vous écrivez, comment expliquer à nos enfants que nous avons fait disparaître les hirondelles ?
C'est ça, c'est qu'en fait, comme le dit Grégoire avec grande justesse, ça s'accélère, ça va très vite. Les oiseaux sont des indicateurs de la mauvaise santé de nos écosystèmes, de la biodiversité. Et même ça, on ne l'entend plus. C'est-à-dire que ce qu'ils véhiculent, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est qu'il y a urgence. Et qu'on continue.
Parce qu'on détruit leurs habitats.
Le réchauffement climatique est là, la surpêche, la surchasse, etc. Et en fait, on est, pour filer la métaphore, on est un peu comme l'autruche. On continue à mettre notre tête sous le sable, alors que tout va très vite. Et c'est maintenant, c'est véritablement une question d'années, quoi.
Guillaume Le Saffre.
Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que si c'est mauvais pour les oiseaux, c'est mauvais pour nous.
Tant qu'on fait partie de cette biodiversité.
Absolument. Et donc, cette notion que Philippe soulignait de bio-indicateur, c'est-à-dire de si jamais on se rend compte que les oiseaux vont mal, il faut absolument se poser des questions sur la façon dont nous allons nous-mêmes évoluer. Mais je crois qu'on a déjà les réponses. Hein. Je dis qu'on se pose la question. Nous avons, nous, les réponses, hélas. Mais on ne nous entend pas toujours.
Et pourquoi, on arrive à la fin de cette émission, pourquoi est-il important aujourd'hui de porter un autre regard sur les oiseaux ?
Un petit peu pour la raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'à travers les oiseaux et à travers les leçons qu'ils peuvent nous donner, comme Élise et Philippe l'ont écrit, ils peuvent aussi nous faire réfléchir sur nous et sur notre devenir.
Philippe Dubois.
Oui, il serait temps qu'on fasse un peu une pause et qu'on se dise quelle est notre véritable place dans ce monde qui est fini, puisque la Terre est finie. On a trop cru que nous étions dans un univers infini et que les animaux nous servaient. Il faut, vous savez, que ça soit les grandes religions ou que ça soit certaines théories politiques, il faut mettre la nature, faut soumettre la nature à l'homme. Or, on sait une chose, c'est que celle qui aura le dernier mot, c'est la nature et non pas l'homme.
Réapprendre à vivre avec la nature et donc les oiseaux qui en font partie. Merci, merci à tous les deux, Philippe Dubois et Guillaume Le Saffre, d'être venus dans notre studio pour nous transmettre ces quelques leçons tirées de votre observation respectueuse et attentive de ce monde des oiseaux. Un grand merci également à toute l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Vous pouvez retrouver comme toujours cette émission sur le site de RFI et sur notre appli RFI Pure Radio. Autour de la question revient lundi prochain avec Caroline Lachaud pour une rediffusion. Parlez-vous cerveau, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur notre cerveau. D'ici là, je vous propose de garder l'oreille ouverte sur le monde et sur ses métamorphoses. À bientôt.